Bonjour Guillaume Kasbarian.
Bonjour Monsieur Rivière.
Le Conseil constitutionnel a rejeté, on s'y attendait un peu, a rejeté hier la deuxième demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche contre la réforme des retraites. Que reste-t-il désormais comme espoir à ceux qui se battent depuis des mois contre cette réforme ?
Écoutez, moi je respecte la décision du Conseil constitutionnel et d'ailleurs j'ai un peu de mal avec ceux qui remettent en cause en permanence la légitimité du Conseil constitutionnel et de nos institutions. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs de l'arc républicain versus les extrêmes, c'est que nous on accepte les décisions qui sont prises par nos institutions. Que reste-t-il comme outil? Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi je sais qu'en tout cas...
Non mais pas comme outil mais comme espoir.
Comme espoir, c'est de se dire que maintenant que cette réforme a été faite, il y a d'autres sujets de préoccupation pour le quotidien des Français et pour notre pays, et qu'il faut avancer sur des sujets du quotidien, sur des sujets de transformation de notre pays, et qu'on ne peut pas éternellement rester sur cette réforme et refaire le match systématiquement et indéfiniment. Donc moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aller de l'avant et aborder des sujets de préoccupation quotidiens des Français.
Est-ce que vous redoutez la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger cette réforme qui sera discutée le 8 juin prochain ?
Écoutez, c'est le droit des oppositions de faire des propositions de loi et chaque mois, il existe une journée au sein du planning parlementaire qui permet aux oppositions de faire entendre des propositions de loi. Donc si c'est leur choix de rester sur ce sujet-là et de le mettre à l'ordre du jour tous les mois, pendant des années, et de continuer à refaire le match, c'est leur choix. Parfois un peu surprenant quand on sait la position de certains sur l'allongement de la durée du travail et de l'âge légal de départ en retraite. Charles de Courson, par exemple, a fait partie de ceux qui, très tôt, prônaient un décalage de l'âge de départ en retraite. Aujourd'hui, il veut combattre et il veut à nouveau remettre le sujet sur le tapis. C'est leur choix. Je ne sais pas ce que ça donnera. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une majorité pour voter ce texte. Je ne pense pas non plus que les sénateurs soient prêts à voter ce texte. Et je crois qu'on peut rester sur ce sujet-là pendant très très longtemps. Puisqu'en réalité, vous savez qu'il y a une navette parlementaire. Mmh. Les sénateurs sont amenés à voter. On ne serait pas forcément d'accord avec les sénateurs sur le sujet. Donc voilà, si c'est le choix des oppositions que de rester sur ces sujets-là, c'est leur choix. Moi, en tant que président de la Commission des affaires économiques, je vois qu'il y a d'autres sujets de préoccupation. Sur l'inflation, sur l'énergie, on a porté des propositions de loi sur la lutte contre les squats. On en porte sur la question des locations touristiques. On porte des sujets de préoccupation majeurs et je crois qu'il est temps de les aborder et de ne pas rester bloqué sur un débat en le rendant éternel. Ce n'est pas encore une fois, je crois, le souhait des Français. J'ai passé, vous savez, une semaine dans ma circonscription à vélo. J'ai été relativement peu interpellé sur la question des retraites et je ne pense pas que le réflexe de mes concitoyens en Eure-et-Loire soit tous les matins de se lever avec une casserole à la main en train de se dire il faut remettre en cause la réforme des retraites. Je pense que les gens veulent aussi parler d'autre chose, de désertification médicale, etc. etc.
Ouais, l'agence Fitch, qui vient d'abaisser il y a quelques jours la note de la France, évoquait le climat social et les manifestations dans son communiqué. Elle s'inquiétait aussi d'une impasse politique, c'est comme les termes sont employés, qui pèsera sur la capacité de la France à réduire son déficit et sa dette. En tant que président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez commencé à évaluer les conséquences de cette baisse de confiance dans la solidité économique de la France ?
En tant que président de la Commission des économiques, je vous dirais plusieurs choses. D'abord que oui, Fitch, dans son argumentaire pour justifier l'abaissement de la note de la France, dit que les manifestations, la contestation et les risques de dérapage budgétaire, si on était amené à céder à ces demandes multiples et variées de revenir en arrière, pourraient avoir des conséquences sur l'endettement de la France. Je souscris totalement, puisque au final, si nous avons fait cette réforme, c'est parce que nous jugions qu'elle était équilibrée et qu'elle permettait de rééquilibrer le système par répartition. Ce qu'elle dit aussi, cette agence, c'est que nous avons encore des efforts à faire pour arriver à l'équilibre budgétaire et réduire la dette de la France, qui, je le rappelle, est à 3 000 milliards d'euros. Et donc, il y a un sujet d'endettement sur lequel on travaille ardemment. Bruno Le Maire, depuis 6 ans, s'attache à équilibrer les comptes, à revenir à de la sobriété budgétaire et à avoir des trajectoires de dépenses publiques qui sont raisonnables. La marche est encore importante à l'avenir. Je rappelle que la France est engagée dans un programme de stabilité qui va nous pousser à faire des économies dans les années à venir. Et puis, à développer le travail, parce que pour financer notre modèle social, pour financer nos dépenses sociales, pour financer la générosité du modèle français sur le chômage, sur la sécurité sociale, sur les retraites, sur le vieillissement de la population, la meilleure façon de l'équilibrer d'un point de vue budgétaire, c'est par le travail.
Alors ce que dit Fitch aussi, à propos de l'impasse politique au fond, c'est que le président de la République aujourd'hui n'a plus de marge pour faire passer de nouvelles réformes structurelles. Et c'est ça qui inquiète cette agence de notation.
Moi, je ne pense pas. Déjà, je ne pense pas. Ce n'est pas factuellement vrai. Depuis la réforme des retraites, nous avons voté à l'Assemblée nationale le projet de loi sur le nucléaire à une très large majorité. On a voté la loi contre l'occupation illicite des logements à une large majorité.
Quand on parle de réformes structurelles, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, vous savez bien.
Écoutez, je constate...
des réformes qui permettent de réduire le déficit.
La création de 6 centrales nucléaires, ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas un petit sujet. Et dans le contexte de crise énergétique que l'on connaît, c'est une attente assez forte. Et donc oui, l'Assemblée nationale est capable de dégager des majorités qui permet de faire avancer d'autres sujets. Et donc, moi, je ne pense pas qu'on est dans une situation de blocage institutionnel. L'Assemblée fonctionne, le Sénat fonctionne. On arrive toujours à mettre en œuvre des réformes. Et donc, je ne suis pas dans le pessimisme de l'agence Fitch qui considère que nous serions bloqués, nous ne pourrions pas passer des réformes. Je ne crois pas. Et je crois que les Français sont prêts à entendre que pour financer notre modèle social et financer nos dépenses et nos services publics, il y a des réformes à mener pour, dans la compétition internationale, vous savez bien chez RFI que la question internationale est importante, la France n'est pas dans un igloo, et que oui, nous avons besoin de continuer à être forts dans la concurrence internationale. C'est le sens du projet de loi industrie verte qui va bientôt arriver, c'est le sens du projet de loi travail qui va bientôt arriver, sur lequel nous avons besoin d'avancer. Voilà, on ne peut pas faire du surplace indéfiniment.
Le 2 juin prochain, c'est l'agence Standard & Poor's qui donnera sa note annuelle à la France. Est-ce que vous attendez sereinement?
J'attends sereinement, sachant que généralement les agences s'alignent entre elles. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un alignement qui soit à l'ordre du jour. On verra bien ce que l'agence décide de faire. Moi, ce qui me préoccupe, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer les réformes dans les mois et dans les années qui viennent pour que la France tienne son rang.
Mais
pour que
la France puisse assurer sa souveraineté.
Eh bien, charge à nous tous de les rassurer et charge aussi à l'opposition de montrer qu'elle est constructive dans cette optique-là. Elle ne peut pas, en tout cas, bloquer indéfiniment. Elle emporte une partie de la responsabilité si c'est son choix.
Est-ce que la reprise du dialogue avec les syndicats peut-être l'issue qui permettrait de sortir de cette crise sociale?
Mais nous, on a toujours été dans une optique de dialogue.
Ouais, enfin, c'est pas ce que disent les syndicats. Mais vous écoutez, savez très bien, ils disent pendant 3 mois, on ne nous a pas adressé la parole.
Bien, donc... C'est ce qui est faux, factuellement faux, puisqu'on leur
donc
a...
Donc leur embergement, par discussion. Exemple.
Il y a eu des discussions sur les retraites. Excusez-moi, le projet de loi, le projet de programme qui avait été présenté aux Français lors de l'élection présidentielle et des élections législatives n'est pas exactement le même que celui qui est sorti. Puisqu'au final, on était à 65 ans au départ, on a baissé à 64 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a eu une évolution du dialogue social qui a été mené de bout en bout par le gouvernement, par la majorité. Et maintenant, il faut continuer, renouveler ce dialogue social sur d'autres sujets. Le premier d'entre eux étant le travail, la façon dont on fonctionne pour que le travail paye et pour que les Français puissent vivre dignement de leur travail. Voilà, ça, je pense que c'est une attente forte de dire, voilà, aidez-nous à faire en sorte qu'on vive correctement de notre travail, à ce qu'on ait des salaires, des primes et des revenus qui soient à la hauteur du travail, de l'effort, du labeur que nous menons chaque jour quand on se lève le matin.
Elisabeth Borne, hier, au Sénat, s'en est pris vigoureusement à Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République, lors du Conseil des ministres, aurait dit que les Insoumis font la courte échelle au Rassemblement national. Est-ce qu'en concentrant à ce point vos attaques sur LFI, ça n'est pas vous qui favorisez l'ascension du Rassemblement national?
Mais écoutez, les outrances de LFI sont assez manifestes. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « Abat la mauvaise République », ça doit tous nous interpeller, parce que c'est une remise en cause de nos institutions, de notre modèle républicain. Et donc, quand il y a des dérapages, des outrances, des provocations menées par Jean-Luc Mélenchon ou les Insoumis, il est aussi du devoir de tous les républicains de notre pays de dénoncer ces outrances-là, parce qu'on ne peut pas laisser passer tout et n'importe quoi. On ne peut pas laisser passer. Et en même temps, moi, je fais partie de ceux qui, dès que j'ai la possibilité, contestent le programme du Rassemblement national, l'absence de solution du Rassemblement national, les solutions délirantes du Rassemblement national. Et donc, il faut dénoncer les extrêmes, quelles qu'elles soient. Et c'est ce que nous faisons chaque jour.
Merci, Guillaume Kasbarian. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup.